Quand ma volonté me donne à un parti, ce n'est pas une obligation que mon entendement s'en affecte. Montaigne.
D'histoire. Peu connu du grand public, André Chandernagor l'est beaucoup plus au sein du Parti Socialiste, où il s'est inscrit en 1947, un an avant d'entrer dans la toute nouvelle École nationale d'administration. C'était le début d'une longue carrière politique. Dans l'ombre des cabinets ministériels, à la direction du PS ou au gouvernement, André Chandernagor a participé activement à tous les grands moments de notre histoire contemporaine. La décolonisation, la naissance de la Ve République et la construction européenne, mais sans jamais renier ses convictions ni renoncer à son franc-parler. C'est ainsi qu'en 1971, au congrès d'Épinay, André Chandernagor s'était violemment dressé contre la stratégie du premier secrétaire du Parti Socialiste, Alain Savary, partisan d'une alliance des socialistes avec le Parti Communiste.
C'est un congrès très animé qui s'est ouvert aujourd'hui à Épinay pour l'unité des socialistes. Et cela avec un affrontement entre M. Savary et M. Chandernagor.
Position du premier secrétaire en ce qui concerne les rapports avec le Parti communiste.
Il est dans notre axe, il est dans notre vocation d'être en rapport avec le Parti communiste.
C'est à une attaque en règle que s'est livré André Chandernagor. Pour le député de la Creuse, la stratégie de Guy Mollet profite plus à la majorité qu'à la gauche. Pour cela, trois étapes.
D'abord, l'union des socialistes. Ensuite, la constitution d'un front démocrate et socialiste. Enfin, une définition sans confusionnisme possible de l'union de la gauche.
André Chandernagor, bonjour.
Bonjour.
Alors, c'était vous au congrès d'Épinay, il y a 33 ans, hein, c'était émouvant. Alors, c'était à une époque où les socialistes français étaient divisés, on l'a entendu, et vous vous opposiez, vous, à une alliance avec les communistes. Un moment de votre vie et de celle du PS que vous rappelez dans vos mémoires, la liberté en héritage. Est-ce que c'est la liberté que vous cherchiez en vous inscrivant au PS? Dans votre livre, vous écrivez que votre adhésion relevait de la morale plus que de l'idéologie.
Oui, c'est vrai, parce que, bon... La liberté, ça, j'y étais attaché par atavisme, puisque, je le dis dans mon livre, quand j'ai gratté un peu sur mes origines, j'y trouve un esclave affranchi. C'est assez loin, mais c'est comme ça. Bon. Mais, si j'ai adhéré au Parti Socialiste, c'est pour des raisons morales. Bon, j'ai été élevé dans une famille qui était catholique, ma mère était catholique pratiquante, moi-même, lorsque j'étais jeune, j'ai été souvent dans les jupes des curés, bien qu'élevé dans des maisons laïques. Et donc, lorsque je suis arrivé à l'âge mûr, je me suis dit qu'il fallait choisir. Entre le fort et le faible, il faut choisir. Hein. Il ne faut pas continuer à être compatissant à des propos. Et donc... J'ai fait délibérément ce choix. Voilà. Alors, c'est pas le marxisme qui m'a... Non. Encore que je n'étais pas insensible à l'analyse politique de Karl Marx. Mais c'était pas ça qui était dominant. Ce qui était dominant, c'est un désir d'égalité vraie. D'égalité vraie, pas d'égalitarisme, mais d'égalité vraie.
Alors vous entrez donc au PS en 47, un an plus tard vous entrez dans la toute nouvelle ENA. L'ENA existait depuis 45, c'est Michel Debré que vous aurez l'occasion de revoir à plusieurs reprises qui a créé l'ENA. Et puis alors vous entrez au Conseil d'État, mais en même temps vous vous intéressez à la politique active et c'est ainsi que, je crois que c'était en 53, et vous l'êtes resté pendant 30 ans, vous avez été élu maire d'une petite commune de la Creuse qui s'appelle Mortroux, qui est si peu connue d'ailleurs, et vous-même à l'époque l'étiez si peu, André Chandernagor, qu'un jour on vous présente dans une réunion publique et on dit « Monsieur Mortroux, maire de Chandernagor ».
Oui, c'était à l'Assemblée Générale Annuelle des maires de France. Alors, bon,
Ça n'a pas suscité de réaction particulière, parce que ça paraissait normal. Vous savez, cette génération-là était habituée aux cinq comptoirs de l'Inde, dont Chandernagore. Ils apprenaient ça à l'école. Alors après tout, qui est le maire de Chandernagore ici, pourquoi pas? C'est quand j'ai corrigé qu'ils se sont mis à dire, non, c'est Chandernagore, maire de Mortrou. Alors là, ça suscitait un gros rire. Parce que ça paraissait extravagant.
Alors la politique, c'est aussi votre entrée en 56 au cabinet d'un des hommes politiques les plus décriés de la 4e République, Guy Mollet, premier secrétaire du Parti Socialiste. Écoutez, on disait à l'époque la SFIO. Hein. Alors écoutez, c'est cette archive étonnante que l'on entend, Guy Mollet attacher plus d'importance à la journaliste qui l'interroge qu'à ses nouvelles fonctions de Premier ministre, on disait à l'époque président du Conseil.
Ah, monsieur le Président, comme je suis contente. Je vous dis bonjour d'abord.
Bonjour, bon
et bien. Puis je ne vous pose pas de questions et vous allez parler.
Voilà. Eh bien,
alors tu peux y aller.
La personne qui m'interroge a une robe charmante.
Oh, monsieur le Président. Monsieur le Président, non. Non, allez, allez, il faut absolument une déclaration des socialistes. Mais non, en fait, pour le journal parler d'une heure. Guy Mollet. Non, faut vous dire quelque chose, mon vieux.
Les conversations sont engagées et sur le programme et sur la composition du gouvernement.
Alors c'était Guy Mollet en 56, à un moment où il devenait chef du gouvernement. C'est vraiment un aspect de Guy Mollet qu'on connaît peu. Hein.
Je ne sais pas s'il ne voulait pas parler.
Enfin, en train littéralement de draguer la journaliste qui est en face de lui, bon, en tout cas de lui faire du charme.
Il s'en est tiré par une plaisanterie.
Ouais. Voilà. Alors, Guy Mollet, en fait, vous ne le connaissiez pas. Hein. En 1956, il devient chef du gouvernement. Vous devenez son conseiller technique à Matignon. Et là, on est en pleine guerre d'Algérie. Et il faut rappeler, et tout le monde s'en souvient, en tout cas tous ceux qui ont vécu cette époque, c'est lui qui a envoyé le contingent en Algérie. Oui. C'est à l'époque du gouvernement Guy Mollet qu'on commence à entendre parler de torture. Et tout ça a contribué à discréditer terriblement le personnage qui était en même temps le patron du PS.
Oui, mais vous savez, d'abord... Ça là, c'est vrai qu'il y a eu une polémique à l'époque, et à juste titre, puisque des gens comme Defferre avaient pris très carrément parti, sans quitter le gouvernement quand même, j'observe. Hein. Ce qui prouve que c'était pas si facile. J'ajoute que, tant que Guy Mollet a vécu, on y est allé avec précaution, parce que il avait de la défense. J'ai le souvenir d'une émission que vous devriez bien retrouver un jour, où Françoise Giroud, c'était un face-à-face avec Françoise Giroud à l'époque, qui dirigeait l'Express, et l'Express avait pris une position contre la torture, à juste titre du reste. Mais Françoise Giroud est arrivée là toute fringante en disant « je vais la voir ». Et moi je me souviens de cette émission qui a duré près de trois quarts d'heure, et qui s'est terminée à l'avantage considérable de Guy Mollet.
Oui, mais enfin, n'empêche que la torture, c'était sous son gouvernement.
Le devoir de mémoire, quand les gens sont morts, c'est généralement facile. Alors, je ne suis pas là pour à la décharge de Guy Mollet. Ce que je veux dire, qu'on occulte toujours, ou presque toujours, c'est qu'il y a quand même eu une commission d'enquête qui a été désignée à l'époque avec des gens comme Maître Maurice Garçon, comme Robert de la Vignette, ancien directeur de l'école coloniale que j'ai bien connu, qui était un homme irréprochable, un grand préfet blessé de l'autre guerre. Ils ont reconnu l'existence de la torture. Comment est-ce qu'on ne l'aurait pas reconnu? Leur conclusion est qu'elle n'était pas généralisée. Alors moi, je ne sais pas si elle était généralisée ou pas généralisée. Ça, chacun appréciera comme il voudra. Mais voilà quelle était la conclusion. Et les conclusions de cette commission ont été à l'époque rendues publiques.
On a le sentiment quand même, et même en vous lisant, André Chandernagore, qu'au fond, le gouvernement était quand même largement dépassé. Il n'y a pas eu que ça. Il y a eu des tas d'opérations qui se sont faites sans son aval. Et alors, ce qui est intéressant aussi, c'est d'abord, on oublie à cause de ça ce qui a eu de positif dans ce gouvernement, qui a été assez long d'ailleurs, hein, la troisième semaine de congés payés, la mise en chantier de la construction européenne. Et puis alors aussi, c'est très curieux, c'est que Guy Mollet, chef du gouvernement de la 4e République et personnalité de la 4e République pendant 12 ans, était un des premiers à vouloir lui-même un changement des institutions. D'ailleurs, en 58, quand le général de Gaulle devient à son tour chef du gouvernement, il prend Guy Mollet dans son gouvernement et comme vous, vous participez, il participe avec vous à la mise en chantier de la nouvelle constitution de la Ve République, André Chandernagor.
Il prend non seulement Guy Mollet, mais il prend aussi Pfimelin, qui est également convaincu. Pfimelin est au MRP, il n'est pas au Parti
Socialiste, oui.
Mais absolument convaincu qu'il faut changer les institutions. Le personnel politique valable de la 4e République savait très bien que les institutions ne fonctionnaient plus. Le drame, c'est que la procédure qu'on avait imaginée pour réformer la Constitution était totalement inapplicable. C'était impossible. On exigeait des majorités telles qu'on ne pouvait pas réformer sous la 4e.
La réforme, c'était essentiellement donner plus de pouvoir à l'exécutif et surtout
absolument
plus de stabilité pour éviter
absolument
que or les
ça,
gouvernements durent 6 mois
ça,
en moyenne.
Guy Mollet m'a demandé d'y travailler dès que je suis entré dans son cabinet. J'y ai travaillé pendant tout le temps où j'étais là, et une partie des réformes que nous préconisions s'est retrouvée dans la Constitution de 58.
À la fabrication de laquelle, d'ailleurs, vous avez contribué.
Bien sûr.
C'était il y a 54 ans, la plus longue
bien
Constitution
sûr
de la Ve République.
Oui.
Et vous avez même assisté, André Chandernagor, à cette cérémonie, le garde des Sceaux, Michel Debré, posant le sceau de la République le 4 octobre 1958 sur la Constitution.
En apposant le sceau de la République, héritier des sceaux du passé, dans cette chancellerie, le plus vieux de nos ministères, souhaitons longue durée et succès profond à ce texte, dépositaire des principes et des institutions de la nation, de cette nation française, gardienne irremplaçable de notre honneur et de nos libertés.
Et c'était la naissance de la Ve République à laquelle vous avez contribué, André Chandernagor. Mais alors, à cette époque-là, et très vite, le Parti Socialiste, Guy Mollet, vous-même, vous devenez des figures au sein du PS, vous êtes dans l'opposition, hein, et vous allez d'ailleurs y rester pendant 23 ans. Et même, alors vraiment, c'est l'étiage pour le PS, parce que il faut le rappeler, vous le rappelez, il est très faible par rapport au Parti Communiste.
Ah,
à gauche,
absolument,
c'est le Parti Communiste qui domine. En 69, à l'élection de 69, présidentielle, Gaston Defferre, candidat du PS, fait 5%,
oui,
le candidat communiste Duclos fait 20%.
Oui, mais parce qu'il y a une alliance objective entre le Parti communiste et le Parti gaulliste.
Mmh.
Malraux l'avait
expliqué
dit parfaitement.
Quand même. Ouais.
Entre les communistes et nous, il n'y a rien. Et le jeu, c'était cela.
Vous voulez dire que le PC servait d'épouvantail pour faire venir vers le Parti gaulliste les électeurs.
Absolument, absolument. Ouais. Et le PC était ravi de maintenir au pouvoir, parce que ça lui servait également à lui de repoussoir à gauche, en disant « je suis le seul à m'opposer », ce qui n'était pas vrai. Car nous savions bien qu'il y avait un vieux contentieux entre les communistes et les socialistes qui datait du congrès de Tours en 1920, mmh, de la rupture, alors que la majorité qui était devenue le Parti communiste avait obéi aux conditions de Moscou, et nous savions bien qu'un jour, il faudrait bien que ce contentieux se libère.
Alors, il y a une chose extraordinaire, c'est que vous-même, le PS ne sait plus très bien ce qu'il faut faire à l'époque. Faut-il s'allier avec les communistes? Faut-il s'allier avec les centristes? Vous-même, en 69, il n'y avait plus de socialistes au deuxième tour de l'élection présidentielle. Vous n'hésitez pas à soutenir la candidature d'Alain Poher contre Georges Pompidou, Alain Poher le centriste. Et vous êtes, en fait, partisan d'un rapprochement, d'une alliance des socialistes avec le centre et non pas avec les communistes. Pourquoi les communistes vous font peur?
Ah ben, vous savez, la puissance du Parti communiste était telle, et son poids sur les élections, enfin voyons, on l'a bien vu du reste, pendant tout le temps même du Parti d'Épinay, nous avons raté un certain nombre d'élections de peu. Lorsque Mitterrand a échoué la première fois face à Giscard, nous avons raté au choix de 200 ou 300 000 voix, c'est de cet ordre-là.
74.
Ouais. Bon, c'est-à-dire que si le Parti communiste avait vraiment voulu nous faire passer, il le pouvait. Il ne l'a pas voulu. À plusieurs reprises, il ne l'a pas voulu. Il pratiquait moi, je l'ai vu pratiquer dans la Creuse, une fois ou deux, le vote révolutionnaire à droite. C'est-à-dire, pour être bien sûr que le socialiste ne passait pas ou pour le faire battre, on votait à droite. Quelques communistes très disciplinés. Mais il suffisait de cela, ou il suffisait que ces gens ne se rendent pas aux urnes, à gauche, et on échouait. Et il a joué à nous faire échouer un certain nombre de fois. Mitterrand le savait, du reste. Il a dit, un jour, ça les dépassera. Et notre succès de 81, c'est effectivement que ça les a dépassés.
Oui, Mitterrand, oui.
Mitterrand l'a fait avec les communistes. Vous, vous étiez, André Chandranagore, nous sommes à la fin des années 60, début des années 70, vous étiez partisan d'un rapprochement, non pas avec les communistes, mais avec le centre.
Hein. Oui.
Vous défendez cette stratégie dans un mensuel, démocratie socialiste,
oui.
Puis aussi dans une association pour une alternative de progrès, à laquelle participent les centristes, ce qui provoque la colère de la direction du PS le 21 novembre 1970.
Les dirigeants socialistes ont décidé de traduire M. Chandranagore mercredi prochain devant le bureau du parti. Ce bureau déférera le député de la Creuse devant la commission des conflits qui, elle, aura le choix des sanctions. Ces sanctions peuvent aller du blâme à l'exclusion en passant par la suspension. J'ai demandé à M. Chandranagore ce qu'il pensait de cette décision de son parti alors qu'il participait à la réunion de l'association.
À partir du moment où on se trouve placé dans la situation suivante, si tu y vas, tu désobéis et... Mais si tu n'y vas pas, en somme, ce serait un manque de courage. J'ai choisi ce qui me paraissait être le courage, car la vie politique, voyez-vous, sans risque, ça n'existe pas. Par conséquent, j'ai pris mes responsabilités.
Et le PS aussi, André Chandranagore, puisqu'il va vous suspendre de la direction du parti. À l'issue d'un conflit, ça ressemblait, dites-vous, à une espèce de procès de Moscou au sein du PS. C'est quand même un peu beaucoup, non?
Non, parce qu'à un certain moment, Georges Guille, qui était membre du bureau du parti comme moi, avait demandé au bureau du parti de m'exclure. C'est-à-dire que la majorité aurait exclu la minorité, ce qui était quelque chose d'incroyable. Et il m'a dit, mais alors, non, tu ne serais pas exclu si tu faisais ton autocritique. C'est-à-dire que l'influence délétère du Parti communiste dans ce qu'il avait de pire finissait par jouer sur le Parti socialiste.
Alors tout ça parce que vous étiez partisan d'un rapprochement avec le centre, c'est une position d'ailleurs qui a fait couler beaucoup d'encre dans les journaux de l'époque, la revue de presse, Stéphanie Benker.
Oui, en 69-70, André Chandranagore provoque un mini-scandale dans le monde politique alors qu'il organise donc une réunion politique avec des centristes, le PS, voire rouge si on peut dire. Le bureau politique du Parti Socialiste accuse Chandranagore de déviation centriste, titre Paris Presse. C'est une mise en demeure qui a bien l'allure d'une menace d'expulsion. Monsieur Chandranagore, bien entendu, n'est pas d'accord avec cet anathème et tout en proclamant sa fidélité au Parti Socialiste, il persiste dans l'indiscipline. Le bureau du parti va donc sévir. En effet, ajoute Paris Presse, la cohabitation avec Alain Savary se révèle difficile. Quelques jours après, André Chandranagore refuse de s'incliner, titre l'Aurore. Le comité directeur du Parti Socialiste va donc juger le rebelle. Quant aux sanctions qui pourraient éventuellement le frapper, remarque le Figaro, elles vont du simple avertissement à l'exclusion pure et simple. Et enfin, la sanction tombe. Monsieur Chandranagore est l'objet d'un avertissement public, titre Le Monde. Sanction grave ou pas, ce petit coup d'éclat donne aux rebelles l'occasion d'expliquer ses idées. Dans Le Monde, notamment, Monsieur Chandranagore se déclare convaincu qu'il est dans la vraie tradition du socialisme français, c'est-à-dire du socialisme humaniste, en réhabilitant le réformisme dont on a dit tant de mal. À ses yeux, la révolution est chimérique et totalement bouchée. Et sur l'Europe, l'Europe de demain, dit-il, sera une Europe d'économie de marché, de libre-échange, et cela pose une limite aux ambitions du socialisme. Il faut en effet savoir qu'on ne peut pas faire la révolution si on veut entrer dans cette Europe. Et sur la politique française, Le Monde ajoute, M. Chandranagore a déploré qu'il n'y ait actuellement aucune possibilité d'alternance au pouvoir. Nous butons sur une grande difficulté, a-t-il déclaré, le Parti communiste. Dire qu'on va gouverner avec le Parti communiste, non, ce n'est pas possible. Et donc en novembre 70, rebelote, problème de discipline au comité directeur du Parti Socialiste, titre l'Humanité, mesure disciplinaire à l'égard de messieurs Chandranagore et Chevènement, indique Le Monde, ils sont privés de leur délégation. Chevènement, lui, bien sûr, à la gauche du parti. Le Figaro rappelle de son côté comment André Chandranagore entra au PS en 47. Ce n'est ni par tradition familiale, ni par entraînement dû à l'amitié, ni par un sursaut de sensibilité, c'est par raison, dit-il, et sans grand souci de doctrine. Déjà, déclare André Chandranagore, je ne me sentais pas très marxiste. Je l'ai avoué secrètement au secrétaire de section qui m'a répondu aucune importance.
Un commentaire du rebelle, comme la presse vous appelle, André Chandranagore, sur cet article de 69-70.
Eh bien, je n'étais pas seul rebelle, hein, et si la sanction a été si faible, parce qu'on m'a privé de ma délégation de membres du bureau et de membres du comité directeur, mais on ne m'a pas privé de ma délégation de député, ni de ma délégation de maire, ni de ma délégation de conseiller général. Et pourquoi? Parce que 20 députés s'étaient associés à ma démarche. Il m'avait soutenu. Je n'étais pas seul. Et mon problème, c'était de faire suffisamment d'alliances au centre pour se présenter en position de force par rapport au Parti communiste. Ce que Mitterrand réussira plus tard en intégrant dans le nouveau Parti socialiste des tas de gens venus du centre.
Mais aussi en acceptant l'alliance avec le Parti communiste qui lui permettre d'être élu à l'Élysée, TF1, Jean-Marie Cavada, le 10 mai 1981.
Voilà l'estimation. 20h, François Mitterrand aurait obtenu, selon la Sofret, 51,7%. Et Valérie Giscard d'Estaing aurait obtenu 48,3%. Dans cette hypothèse, 51,7, François Mitterrand deviendrait le nouveau président.
France Inter, 2000 ans d'histoire, aujourd'hui André Chandernagor.
Et c'était une chanson et une musique de Mikis Theodorakis composée 10 ans avant l'alternance de 1980, une chanson peut-être qu'on n'entend plus beaucoup au sein du PS, mais que vous connaissez bien, puisque vous la citez dans votre livre, André Chandernagor. Et puis alors après cette alternance, enfin au début, vous devenez ministre des Affaires européennes, les deux premiers gouvernements de l'alternance, vous y êtes. L'Europe aussi, on n'en a pas parlé, mais c'est une de vos passions.
L'Europe d'abord, parce que c'est vrai que déjà chez Guy Mollet, j'avais été associé de près à la signature du traité de marché commun, qui était quand même quelque chose d'extraordinairement important. On l'occulte toujours quand on parle de Guy Mollet, on a tort. Pourquoi est-ce que on m'a nommé ministre des Affaires européennes? Je crois parce que je servais de caution. Tout le monde savait que j'étais très européen et fédéraliste européen. Parce que je crois qu'il n'y aura d'Europe politique que fédérale. Ça ne peut pas être autrement. Alors, tout le monde le savait à Bruxelles. Et dans un gouvernement qui était le premier gouvernement en Europe communautaire, à avoir les communistes à l'intérieur.
Depuis 47.
Depuis 47. Donc, moi, je servais de caution. Ça, j'ai très bien compris ça. Mais j'ai assumé la caution. Et je dois dire honnêtement que du côté du Parti communiste, je n'ai eu aucun problème. Ils ont été d'une sagesse, mais nous étions devenus le parti dominant. C'était ça, le phénomène nouveau.
Et puis alors, surtout, vous quittez le gouvernement en 83, ainsi d'ailleurs que tous vos mandats, vous dites, je me désintoxique de la politique. Cela dit, vous entrez quand même, et vous êtes resté président pendant 7 ans, de la Cour des comptes, et puis alors, vous quittez vraiment totalement toutes vos fonctions, toutes vos activités en 1990, et puis, pour porter, dites-vous, sur les événements un regard neuf. Alors, vous déplorez aujourd'hui, depuis une quinzaine d'années, je l'ai lu dans votre livre, les corporatismes qui bloquent les réformes, les médias qui leur servent de tribune au corporatisme, l'affaiblissement aussi de la morale. C'est plutôt conservateur comme idée que vous vous faites aujourd'hui, pour un socialiste, idée que vous faites du monde d'aujourd'hui, André Chandernagor.
Je ne sais pas si vous appelez ça conservateur, mais moi je vous dirais que j'ai assisté à... déjà dans une vie longue, j'ai assisté à la fin de la Troisième République, à son affaiblissement progressif, au système institutionnel qui ne fonctionnait plus, à des gouvernements sans force. J'ai assisté à la fin de la Quatrième République, dans les mêmes circonstances, j'assiste effaré à la même chose sous la Cinquième, maintenant. Enfin, j'ose le dire, à 83 ans, on peut. Où est l'exécutif? Mais pas seulement d'aujourd'hui. C'est pas la couleur politique, je ne juge pas d'après ça. Enfin, je vois les corporatismes régnants, c'est évident. Je vois les médias en compassion tous les jours pour une nouvelle cause.
défendable, bien sûr, défendable. Toutes les causes sont défendables. Et le champ des besoins insatisfaits est considérable. Mais sans se poser le problème de combien ça coûte et qui va payer. Et alors comme ça, on tire des traites sur l'avenir. Mais enfin, est-ce que vous vous rendez compte? Quant à la morale, je dis honnêtement, oui, il doit y avoir une morale. On ne gouverne pas les hommes sans obligation ni sanction. Ça n'est pas être un homme de droite que de le dire. Je ne sépare pas l'ordre et le mouvement. Il ne peut pas y avoir de mouvement dans le désordre. Le mouvement dans le désordre aboutit toujours à la dictature.
Alors, on pourrait vous croire un peu désabusé, pas du tout. Vous dites, au fond, je suis assez satisfait, peut-être aussi à cause de vos enfants, hein, Thierry, qui vous a succédé à la mairie de Mortrou, et au conseil général de la Creuse, Dominique, et puis Françoise, Aléna, et puis qui est l'écrivain que l'on sait. Au fond, vous êtes un père comblé, à 83 ans, André Chandranagor.
Oui, bien sûr, oui, je considère que j'ai cette chance, parce que j'ai trois enfants qui ont du caractère, et qui ont également, excusez-moi d'employer l'expression, un sens moral, un sens des valeurs, bon, que je cherche souvent, et que je voudrais voir transmettre dans ce qu'elles ont d'actuel, parce que tout peut être réformé, revu, actualisé, mais de là à la société dans laquelle nous vivons, qui est quoi? Où sont les valeurs? Enfin, je vois la loi vilipendée tous les jours. Je vois un parlementaire s'enorgueillir de s'être assis sur la loi. Bon. Je vois des syndicalistes violer la loi tous les jours. Je vois, pas seulement des syndicalistes de gauche, mais des hommes de droite aussi. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas ce qu'on m'a appris à l'école primaire sous la Troisième République.
En tout cas, on voit qu'à 83 ans, vous n'avez pas perdu votre vigueur et votre passion. On la retrouve aussi, André Chandernagor, dans votre livre, vraiment, dont je recommande la lecture, La liberté en héritage, qui a été publié chez Pygmalion. C'était 2000 ans d'histoire à la technique, Patrick Henry et Benjamin de Lagatiné, documentation et archivina, Virginie Bloch-Lenné, Claire Destacan et Émilie Trassant, revue de texte Stéphanie Duncan, réalisation de Anne Comilac.
Une émission de Patrice Gélinet.